Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 3 mai 2019, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia.
Eric Manilakidza.
Nous commençons par les titres.
Au Mali, la MINUSMA qualifie le massacre d'Ogossagou d'attaque planifiée, organisée et coordonnée.
Au Bénin, retour au calme hier soir à Cotonou, on déplore au moins 2 morts. Dans les violences post-électorales.
La chancelière allemande Angela Merkel a poursuivi au Niger sa mini-tournée sahélienne.
En République démocratique du Congo, la justice a convoqué pour lundi l'opposant Martin Fayulu.
Et au Soudan, immense folie hier à Khartoum pour maintenir la pression sur les militaires et réclamer un pouvoir civil.
Venezuela, l'opposant Juan Guaido appelle à manifester en paix samedi devant les casernes. Son rival Nicolas Maduro passe à l'offensive contre ceux qu'il appelle les putschistes.
Et ne manque pas notre page des sports ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Le massacre fin mars de près de 160 habitants d'un village Peul, Ogossagou, dans le centre du Mali, a été une attaque planifiée, organisée et coordonnée et pourrait être qualifiée de crime contre l'humanité, a estimé jeudi la mission onusienne au Mali, la MINUSMA. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Le 23 mars, au moins 157 membres de la communauté Peul d'Ogossagou, dont des femmes, des enfants, ont été tués par un groupe composé d'au moins une centaine d'hommes armés, identifiés comme des chasseurs d'onso traditionnels. Ils étaient accompagnés par des dizaines d'hommes en tenue militaire. Ce sont eux qui ont mené une enquête planifiée, organisée et coordonnée, selon les conclusions préliminaires publiées ce jeudi par la mission d'enquête spéciale de l'aménagement. Avait dépêché une mission d'enquête à Ogossagou du 25 au 29 mars dernier après cette tuerie, la plus grave qu'ait connue le Mali depuis 2012. L'attaque d'Ogossagou s'inscrit dans un contexte de nombreuses autres attaques similaires par des groupes de chasseurs traditionnels à l'encontre des populations Peul, selon l'aménagement. Ainsi, les atteintes aux droits de l'homme documentées à Ogossagou, prises dans leur contexte, pourraient être qualifiées de crimes contre l'humanité s'il est démontré que cette attaque s'inscrivait dans un contexte d'une attaque systématique ou généralisée contre la population civile. Selon les rapports, les enquêteurs ont pu localiser et confirmer l'existence d'au moins 3 fosses communes contenant au moins 40 corps dans chacune des 2 premières et 70 corps dans la 3e. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La chancelière allemande Angela Merkel, qui effectue une mini-tournée sahélienne, a souligné l'importance de la coopération avec Niamey pour lutter contre l'immigration, dont le Niger est une plaque tournante. La chancelière est aussi revenue sur la situation sécuritaire, disant « Nous œuvrons ensemble sur la mise sur pied d'une force conjointe du G5 Sahel, mais aussi pour renforcer les forces armées nigériennes et nous avions investi 30 millions d'euros au cours des dernières années. » Nous reviendrons sur la visite d'Angela Merkel au Niger en seconde partie de cette édition avec notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Le calme était revenu au Bénin hier soir pendant que la Cour constitutionnelle donnait les résultats définitifs des élections législatives. Après 2 jours de violence, de violentes manifestations post-électorales réprimées par des tirs à balles réelles qui ont fait au moins 2 morts selon un nouveau bilan établi par l'AFP. Le taux de participation est de 27,1%, a déclaré jeudi soir Joseph Djoguebounou, le président de la Cour constitutionnelle, soit un chiffre plus élevé que les 23% précédemment évoqués par la commission électorale dans les résultats préliminaires. Nous reviendrons également sur la situation au Bénin en seconde partie de cette édition avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
En République démocratique du Congo, la justice a convoqué pour lundi l'opposant Martin Fayulu, qui continue de contester la victoire du président Félix Tshisekedi à la présidentielle du 30 décembre. La raison, fournir des renseignements utiles selon une invitation de la police judiciaire jeudi, consultée par l'AFP. Lundi, dans une lettre, le procureur général près la Cour de cassation, Flori Kabange, avait transmis au commissaire général de la police judiciaire pour, je cite, « investigation et me faire rapport », une plainte contre l'opposant Fayoulou, accusé d'incitation à la haine tribale, de massacre des Balouba, la tribu du président Félix Tshisekedi, pillage, etc. Fin de citation.
Une immense foule de Soudanais s'est réunie devant le Kigé de l'armée à Khartoum pour une marche d'un million de personnes afin de réclamer un transfert du pouvoir aux civils. Les précisions d'Irénée Herman Ongbo.
Les ponts et les rues menant au complexe militaire situé dans le centre de Khartoum étaient noirs de monde. Dans une ambiance festive, des chants révolutionnaires résonnent à travers des enceintes sur le lieu du sitting où campent depuis le 6 avril des milliers de Soudanais. « Que tu chutes ou non, nous resterons », scandent les contestataires en référence au Conseil militaire de transition qui a succédé au président Omar el-Béchir. Les deux camps se sont mis d'accord pour établir un conseil conjoint, appelé aussi Conseil souverain, pour remplacer le Conseil militaire. Mais les négociations échoppent sur le nombre de membres et sa composition, chaque parti insistant pour être majoritaire dans cet organe. L'Alliance pour la liberté et le changement, qui regroupe les principales formations de la protestation, a présenté jeudi au Conseil militaire un document proposant d'établir une administration civile avec des organes exécutifs, législatifs et judiciaires. Sati El Hadj, un des chefs du mouvement, a déclaré que l'Alliance voulait une réponse à sa demande dans les 72 heures.
En Afrique du Sud, malgré la fin de l'apartheid et l'accession de la majorité noire au pouvoir, la question raciale est toujours d'actualité, 25 ans après. À Cape Town, Denis Kadima, directeur de l'Institut électoral pour le développement durable en Afrique.
Le racisme n'a pas disparu, il est là, il est bien en vie, mais il y a tout un système en place pour le gérer, pour le réduire, pour éviter qu'il se manifeste, quoi. Donc, les gens peuvent faire recours, par exemple, au tribunal de l'égalité. C'est des mécanismes qu'on ne retrouve pas dans beaucoup de pays. Il y a la commission des droits de l'homme qui peut aussi écouter des cas d'abus racial et tout. Mais le racisme, il existe, il est subtil, il n'est pas légiféré, mais vous savez, l'économie est encore entre les mains de la minorité blanche. Et d'autre part, le gouvernement de l'ANC a mis en place l'action affirmative, donc c'est un système pour favoriser les Noirs aussi bien dans l'emploi que dans les affaires. Et tout cela, pendant que on essaie de corriger les abus du passé, ça crée aussi un certain malaise dans les relations entre les races.
Denis Kadima, directeur de l'Institut électoral pour le développement durable en Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ailleurs dans le monde, le président américain Donald Trump a appelé à se battre avec force contre l'antisémitisme. Moins d'une semaine après une fusillade qui a fait un mort dans une synagogue près de San Diego en Californie. Le point avec Abdelrahman Dia.
À l'occasion de la journée nationale de la prière, le président américain a indiqué qu'il allait se battre pour vaincre l'antisémitisme et mettre fin aux attaques contre les Juifs. Le président américain s'exprimait après le témoignage du rabbin Israel Goldstein, blessé à la main dans l'attaque perpétrée dans sa synagogue la semaine dernière. « J'aurais pu mourir, j'étais dans la ligne de mire, mes doigts ont été emportés », a-t-il raconté. « Ma vie a changé pour toujours ». Évoquant les récentes attaques perpétrées dans des lieux de culte à travers le monde, de la Nouvelle-Zélande au Sri Lanka, M. Trump a insisté sur la nécessité de tout faire pour que tout le monde puisse vivre et prier en paix. Donald Trump a reçu à la Maison-Blanche des leaders religieux de différentes confessions à l'occasion de cette journée nationale de la prière.
Au Venezuela, le président autoproclamé, l'opposant Juan Guaido, a appelé à manifester en paix samedi devant les bases militaires du pays pour demander à l'armée de cesser son soutien au président socialiste Nicolas Maduro. Ce dernier et l'armée, qui est le pilier du pouvoir en place, sont passés jeudi à l'offensive contre, je cite, tous les putschistes, 2 jours après une tentative de soulèvement manquée d'un groupe de soldats passés dans le camp de Guaido, reconnu par une 50aine de pays, dont les États-Unis. Après 2 jours de manifestations massives, mardi et mercredi, contre son gouvernement, M. Maduro s'est adressé hier à 4500 soldats dans la principale caserne de Caracas au cours d'une cérémonie radio-télévisée. La Minute Éco, Nani Talani.
L'Angola devrait lancer son tout premier appel public à l'épargne cette année. Le pays établit une bourse nationale avec la privatisation de plusieurs sociétés d'État. Patricio Villard, PDG de la bourse Boudiva à Luanda, s'attend à ce que 2 sociétés dont les noms n'ont pas été donnés soient introduites en bourse cette année, avec un nombre plus important et non précisé pour 2020. Au Cameroun, 50 milliards de francs CFA ont été investis dans une usine de transformation de cacao à Kekem, dans l'Ouest, pour donner un nouvel élan à l'industrialisation du pays, rapporte la Tribune Afrique. Visant le marché mondial, la nouvelle unité a une capacité de transformer 32 000 tonnes de fèves de cacao et 25 600 tonnes de produits semi-finis. Le projet, qui permettra la création de plus de 2500 emplois, devrait aussi accueillir une usine d'emballage. Il a bénéficié des fonds du Marocain Atijari Wafa Bank, du Camerounais Afrilen First Bank et de l'assureur français AGF. Au Cameroun, 50 milliards de francs CFA ont été investis dans une usine de transformation de cacao à Kekem dans l'Ouest, pour donner un nouvel élan à l'industrialisation du pays, rapporte la Tribune Afrique. Le projet, qui permettra la création de plus de 25 000 emplois, devrait aussi accueillir une usine d'emballage.
Sport à présent avec Bagassi Koura. Bagassi, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa, bonjour à tous.
En football, demi-finale hier soir de la Ligue Europa et le ballottage favorable pour Chelsea après son nul à Francfort.
Oui, Chelsea devra finir le travail au match retour tenu en échec à Francfort, 1-0. Les Blues sont néanmoins en ballottage favorable pour se qualifier pour la finale de la Ligue Europa le 29 mai. L'inévitable Luka Jovic, 21 ans, a ouvert le score pour Francfort à la 23e minute et Pedro a égalisé juste avant la pause pour les Londoniens, dont le compteur est ensuite resté bloqué face à des Allemands sans complexe qui ont même gâché quelques balles de match dans les dernières minutes.
Ligue Europa toujours, Arsenal met un pied en finale grâce à la Lacazette et Aubameyang.
Oui, Arsenal a fait un grand pas vers la finale après sa victoire contre Valence grâce notamment à un doublé d'Alexandre Lacazette et grâce au but du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Les Gunners devront toutefois se méfier jeudi prochain car le but à l'extérieur de Mukhtar Diakabi les rend vulnérables. En attendant, dans ce premier duel entre 2 équipes sur le point de gâcher leur saison, ce sont bien les Londoniens qui s'en sont le mieux sortis.
La Confédération africaine de football annonce l'utilisation dès les quarts de finale de la CAN 2019 de l'assistance vidéo à l'arbitrage.
Oui, selon un responsable de la Confédération africaine de football cité par Africa Top Sport, l'assistance vidéo de l'arbitrage sera utilisée dès les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations prévue du 21 juin au 19 juillet en Égypte. Souleymane Waberi, président de la commission des arbitres de la CAF, a assuré à la presse que la VAR ne sera utilisée ni lors de la phase de poule ni au deuxième tour de la compétition. Pour mieux les préparer à ce système, nombre d'arbitres candidats officiels aux matchs de la CAN 2019 ont été formés sur l'utilisation de la technique de la VAR.
L'Atlético Madrid affrontera les meilleurs joueurs de la MLS cet été.
Oui, le club madrilène sera l'adversaire des meilleurs joueurs du championnat nord-américain de football le 31 juillet à Orlando en Floride lors du traditionnel All-Star Game. L'Atlético succède à la Juventus Turin, victorieuse de ce match de gala en 2018 au tir au but. Depuis 2005, le All-Star Game oppose une équipe formée des meilleurs joueurs du championnat MLS, sélectionnés par le public et la MLS à un grand nom du football européen comme Manchester United en 2010 et 2011, le Real Madrid en 2017 ou le Bayern Munich en 2014. Et Idrissa, pour terminer, quelques résultats de la NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Philadelphie a pris l'avantage dans son duel des demi-finales de la conférence Est de la NBA face à Toronto grâce à sa démonstration à domicile 116 à 95 dans le match numéro 3 jeudi. Les Sixers mènent 2-1 et ont peut-être pris définitivement l'ascendant sur les Raptors avant le match numéro 4 dimanche, toujours à Philadelphie. Joel Embiid a martyrisé Toronto avec ses 33 points, 13 sur 22 au tir, 10 rebonds et 5 contre.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoulia, en compagnie d'Eric Manirakidza. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Eric.
Un retour sur la situation à Cotonou, au Bénin, où des affrontements ont eu lieu hier entre les forces de l'ordre et des manifestants de l'opposition, notamment des partisans de l'ancien président Boni Yayi. Plusieurs biens ont été détruits. On parle d'au moins un mort. Précision de notre correspondant sur place, Ginette Fleur-Adandé.
Cotonou se remettait à peine des casses du mercredi 1er mai lorsque jeudi les manifestants sont descendus dans les rues pour exiger la démission du président Patrice Talon ou l'annulation des législatives qui a exclu de la compétition les forces de l'opposition. Pour Ernest Fabignon, on aurait pu éviter l'escalade de la violence.
Tout le monde veut la paix, mais nous comprenons qu'il y a certains qui conseillent chef d'État de foncer droit, tête baissée, qui le soutiennent. Parce que nous avons entendu, nous aurons des élections et rien ne se passera. Voilà là où nous en sommes.
Le ministère de la fonction publique a enregistré des dégâts causés par les manifestants. Les travailleurs jeudi appelaient Patrice Talon à œuvrer pour que la paix règne.
C'est déplorable et on n'est pas du tout content. On n'est pas content. Il faut que le chef de l'État ramène la balle à terre.
Vous convenez avec nous que nous ne pouvons pas avoir le cœur dégagé pour travailler. Nous n'avons pas la conscience.
On voudrait aujourd'hui que les dirigeants africains, en particulier ceux béninois, actuellement au pouvoir, et ceux qui ont déjà fait leur temps de se comprendre pour que les Béninois puissent aller et venir librement.
Le Parti républicain, dans un point de presse, a dénoncé le regain de violence et a appelé l'opposition à cesser d'attiser le feu.
Nous condamnons et dénonçons le comportement et l'attitude indigne et irresponsable de certains de nos anciens hauts dirigeants politiques et de la clique de pseudo-opposants qui les accompagnent. Se sont illustrés une fois de plus en appelant le peuple au soulèvement et en avançant des taux de participation qui n'ont de référence que leur imagination fertile.
Jeudi soir, la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs des législatives dont le taux de participation selon elle est de 27,12%. De Cotonou, Ginette Fleur-Adandé pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
En mini-tournée dans les pays du Sahel, la chancelière allemande Angela Merkel est arrivée hier après-midi au Niger. Comme au Burkina Faso, sa première étape, elle a parlé de coopération au développement et de sécurité. Le point avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
La chancelière allemande a déclaré être revenue 2 ans après sa première visite au Niger pour voir l'évolution des rapports entre son pays et le Niger. Et son constat est tout simple.
Donc nous félicitons aujourd'hui. Il s'agit de nouveaux projets dans le domaine de la sécurité. Entre-temps, le conseiller militaire est arrivé, que nous avions promis. Depuis ma première rencontre, nous en avons parlé, d'avoir coopéré avec le ministère de la Défense, ensemble avec les Pays-Bas. Nous avons décidé une aide à l'équipement pour les forces de sécurité dans la région de Touao. Et en 2020, nous prévoyant un projet similaire pour la région de Zinder.
Sur les motivations de sa présence au sommet extraordinaire du G5 Sahel, la veille au Burkina Faso, la chancelière allemande a répondu ceci.
Motiviert bin ich dadurch, dass wir von
Ce qui m'a motivé, c'est parce que nous, du côté européen, nous avons encore confirmé d'aider à l'équipement du G5 Sahel et parce que cette hub de coordination, donc ce centre de coordination, est implanté à Bruxelles et moi, personnellement, j'ai voulu vérifier où est-ce que nous en sommes, quelles sont les difficultés. Parfois, certains points peinent à se matérialiser. Dure plus longtemps dans la mise en œuvre. Nous avons tenu les engagements allemands, mais à l'échelle internationale, nous avons toujours des points sur lesquels nous devons travailler. Il y a d'autres partenaires qui participent. Hier, nous nous sommes échangés sur les questions de fond. Dans quelques jours, il y aura une rencontre des ministres des Affaires, des affaires étrangères et des Défenses de l'Union européenne et du G5 Sahel. Et de ma propre expérience, je pourrai encore une fois parler à mes ministres pour dire à ce qu'il faudra veiller.
Le président nigérien Issoufou Mahamadou a réaffirmé à Angela Merkel ce que lui et ses pairs du G5 Sahel attendent de la communauté internationale par rapport à la lutte contre le terrorisme.
Le combat que nous menons ici au Sahel contre le terrorisme, c'est un combat que nous menons pour le monde, pour la sécurité mondiale. Je constate que la chancelière a bien compris cela et qu'elle fera le plaidoyer auprès des autres pays afin qu'un soutien accru soit porté aux pays du Sahel afin que les pays du Sahel puissent faire face à cette menace et surtout par rapport à l'urgence de sortie de la crise libyenne qui est une source de déstabilisation pour les pays du Sahel.
Abdullah Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
L'Afrique du Sud organise le 8 mai les élections législatives. Le parti qui obtiendra la majorité choisira le futur président du pays. Ces dernières années, l'ANC, le parti de Nelson Mandela, a perdu du terrain après de nombreux scandales de corruption éclaboussant l'un de ses successeurs, l'ancien président Jacob Zuma. Est-ce que ces scandales à répétition auront de l'effet sur ce scrutin? Idriss Fall a joint à Cape Town Denis Kadima, directeur exécutif de l'Institut électoral pour le développement durable en Afrique.
Absolument, ces scandales auront un effet, comme ils avaient déjà eu un effet en 2016 lors des élections municipales où l'ANC avait perdu le pourcentage de support. 5 ans plus tôt, l'ANC avait obtenu 62% dans les élections municipales, mais en 2016, ils étaient à 53%. Il est clairement établi que c'est à cause justement de tous ces problèmes de corruption qui caractérisaient le pouvoir de Jacob Zuma.
Même l'ANC ne risque pas de perdre aux législatives parce que le vote, il est plutôt ethnique ou noir, si j'ose dire.
En fait, d'après les projections qui sont faites, il est clair que l'ANC va gagner. Il n'y a pas crainte qu'il perde. Mais la question qu'on se pose, c'est à quel pourcentage ils vont obtenir quelle portion? Est-ce que ça sera encore une baisse? Les gens s'attendent effectivement qu'il y ait une baisse, pas nécessairement en faveur de l'Alliance démocratique. Certainement, ils peuvent en bénéficier, mais aussi de IFF, donc il s'appelle le combattant pour la liberté économique.
De Julius Malema, le bouillant Julius Malema.
Voilà. En fait, c'est lui qui est vraiment le vrai compétiteur parce que lui et l'ANC partagent l'électorat noir. Vous parliez du vote ethnique. Effectivement, à ce niveau-là, Malema peut réduire la marge de l'ANC. Mais d'autre part, le deuxième grand parti d'opposition, donc l'Alliance démocratique, a aussi eu des problèmes assez sérieux avec son plus grand leader, si je peux parler en termes des races métisses. Celle-là a été, elle a traîné le parti au tribunal à cause de certains désagréments entre eux. Et ça a fait beaucoup de bruit et ça, elle a même quitté le parti pour former un autre parti qui s'appelle Good Party. Donc si je dois traduire aussi, c'est Bon Parti. Ça aussi, ça va affecter le deuxième plus grand parti. Et tout cela rend les élections de la semaine prochaine très complexes à prédire.
Mais malgré tout, on est sûr que M. Cyril Ramaphosa, à l'arrivée, va redevenir président de l'Afrique du Sud.
Absolument. Il sera président de l'Afrique du Sud. L'ANC a encore beaucoup de popularité. Vous l'avez bien dit, dans les milieux les plus pauvres, il y a le système très socialiste qu'ils ont mis en place où on donne des subsides aux plus pauvres, les femmes enceintes jusqu'à un certain âge. On essaie de construire des maisons pour les plus pauvres, les plus démunis. Et tout ça, ça aura un impact. Mais n'oubliez pas aussi le poids de l'apartheid. L'apartheid, bien que c'est 25 ans après les premières élections, les gens ont encore en mémoire le système d'apartheid. Et comme l'ANC, c'est le parti qui les a libérés de l'apartheid, il y a encore une grande sympathie vis-à-vis de ce parti, malgré tout ce qu'il y a comme bévue, particulièrement sous Zuma.
C'était Denis Kadima, directeur exécutif de l'Institut électoral pour le développement durable en Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Une petite page culture pour terminer. Les membres de la communauté Soninké, très présente au Mali, au Sénégal, en Gambie, mais aussi en Mauritanie, se sont réunis le week-end dernier à Saint-Denis en France pour célébrer les 40 ans de l'Association pour la promotion de la langue et de la culture Soninké. Pour en parler, Ekia Badou, adjoint à Paris, Awa Kone, adjointe au maire de la commune de Près-Saint-Gervais.
Alors les 40 ans, c'était un moment qui était très, très émouvant. Et ce qui est bien avec la communauté soninké, c'est cette multiculturalité, parce qu'il n'y avait pas que des soninké qui étaient venus. Il y avait aussi l'intergénération. Ça, c'est extraordinaire quand on a toutes ces femmes et tous ces hommes qui étaient présents, parce qu'il y avait des stands à l'extérieur donc du lieu où il y avait des conférences, où il y avait des jeunes chefs d'entreprise beaucoup plus anciens, des personnes qui sont dans le domaine de la littérature, dans le domaine de l'enseignement. Ça donne une dynamique positive et ça donne aussi l'envie aux nouvelles générations de se lancer dans l'écriture. Donc on sort vraiment de l'oralité pour aller plus dans quelque chose de plus palpable et donc c'est que du positif.
Début mars, à Bamako, il y a eu la présentation de 3 ouvrages en soninké. Il y a eu cette mobilisation des personnes plus anciennes, plus âgées que vous, qui se sont vraiment enorgueillies, en tout cas qui étaient très fières de voir la solidarité soninké. Est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez, cette solidarité qu'il y a au sein de votre communauté, au-delà même du Mali, même dans les autres pays?
C'est aussi la raison pour laquelle, depuis 2011 ou 2012, il y a le Festival international soninké. Le soninké, quel que soit l'endroit où il est, il doit être solidaire avec les siens, mais il doit aussi être solidaire avec tous les autres. Il doit s'intégrer dans les sociétés dans lesquelles il vit, tout en étant très attaché à sa culture, très attaché aussi à sa langue, parce que pour nous, c'est un vecteur qui est extrêmement important pour faire passer des messages, pour recevoir aussi, pour donner. Donc le soninké, qu'il soit en France ou qu'il soit aux États-Unis ou quel que soit l'endroit où il est dans le monde, c'est sa culture qui va le guider. Et oui, effectivement, quand on s'enorgueillit, c'est parce qu'on réussit à promouvoir notre culture, ce que l'on est. On ne dénigre pas, parce que les soninké, ce sont des tunkaranko, ce sont des voyageurs qui sont partout dans le monde. Ils sont aux États-Unis, ils sont en Chine, ils sont au Japon, ils sont en Afrique du Sud. On dit même qu'il est parti jusqu'à dans la Lune, car Cheikh Modibo Dera, qui a travaillé avec les services aéronautiques américains, a travaillé sur des projets. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a même des soninké sur la Lune. Donc oui, on s'enorgueillit, on en est fiers, et en même temps, on est parfaitement intégré partout où on va.
Alors, est-ce que c'est dans cet esprit-là que vous avez aussi envie de créer cette académie?
Au niveau de l'académie, donc le projet avance. Ce qui est bien, c'est que grâce au Festival international soninké, on peut non seulement toucher les soninké partout dans le monde, mais également les partenaires publics, les partenaires privés des différents pays où il y a cette communauté. Cette académie-là, elle n'est pas communautaire, elle n'est pas individualiste. Elle est faite effectivement pour continuer la promotion de cette culture-là, mais elle est là aussi pour faire émerger des talents, émerger des savoir-faire et vraiment s'intégrer. Là, cette académie, elle devrait se faire normalement en France, dans la région parisienne.
C'était la franco-malienne Awa Kone, membre depuis plus de 20 ans de l'Association pour la promotion de la langue et de la culture soninké.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez télécharger et partager l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Eric Manira-Kidza pour le suivi de l'actualité et à Michel Joseph pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloulia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.